Chapitre 4. Le roi trouvé. Les princes de ce temps-là avaient besoin d'un nain. Les couples de pauvres gens considéraient presque comme une chance de mettre au monde un avorton de cette sorte. Ils avaient la certitude de le vendre un jour à quelque grand seigneur, sinon au roi lui-même. Car le nain, nul n'eût songé à en douter, était un être intermédiaire entre l'homme et l'animal domestique. Animal parce qu'on pouvait lui mettre un collier, l'affubler comme un chien dressé de vêtements grotesques et lui envoyer des coups de pied aux fesses. Homme parce qu'il parlait et s'offrait volontairement, moyennant salaire et nourriture, à ce rôle dégradant. Il avait à bouffonner sur ordre, sautiller, pleurer ou niaiser comme un enfant, et cela même quand ses cheveux devenaient blancs. Sa petitesse faisait ressortir la grandeur du maître. On se le transmettait par héritage ainsi qu'un bien de propriété. Il était le symbole du sujet, de l'individu soumis à autrui par nature et créé tout exprès, semblait-il, pour témoigner de la division de l'espèce humaine en races différentes, dont certaines avaient pouvoir absolu sur les autres. L'abaissement comportait des avantages. Le plus petit, le plus faible, le plus difforme prenait place parmi les mieux nourris et les mieux vêtus. Il était également permis, et même ordonné à ce disgracié, de dire au maître de la race supérieure ce qui n'eût été toléré de nul autre. Les moqueries, les reproches, les insultes que tout homme, même le plus dévoué, adresse parfois en pensée à celui qui le commande, le nain les proférait pour le compte de tous, comme par délégation. Il existe deux sortes de nains. Ceux à long nez, à face triste et à double bosse, et ceux à gros visage, nez court et torse de géant monté sur de minuscules membres noués. Le nain de Philippe de Valois, Jean le Fol, était de la seconde sorte. Sa tête arrivait juste à hauteur des tables. Il portait grelot au sommet de son bonnet et sur les épaules de ses robes de soie. Ce fut lui qui vint dire un jour à Philippe, en tournoyant et en ricanant,
« Tu sais, mon sire, comment le peuple te nomme ? On t'appelle le roi trouvé. »
Car le vendredi saint, 1er avril de l'an 1328, Madame Jeanne d'Évreux, veuve de Charles IV, avait fait ses couches. Rarement dans l'histoire, sexe d'enfant fut observé avec plus d'attention à l'issue des flancs maternels. Et quand on vit que c'était une fille qui naissait, chacun reconnut bien que la volonté divine s'était exprimée, et l'on en éprouva un grand soulagement. Les barons n'avaient pas à revenir sur leur choix de la Chandeleur. Dans une assemblée immédiate, où seul le représentant de l'Angleterre fit entendre par principe une voix discordante, ils confirmèrent à Philippe l'octroi de la couronne. Le peuple poussait un soupir. La malédiction du grand maître Jacques de Molay paraissait épuisée. La branche aînée de la race capétienne s'achevait par trois bourgeons séchés. L'absence de garçon en toute famille fut toujours considérée comme un malheur ou un signe d'infériorité, à plus forte raison pour une maison royale. Cette incapacité des fils de Philippe le Bel à produire des descendants mâles semblait bien la manifestation d'un châtiment. L'arbre allait pouvoir repartir du pied. De soudaines fièvres saisissent les peuples, dont il faudrait chercher la cause dans le déplacement des astres, tant elles échappent à toute autre explication. Vague d'hystérie cruelle, comme l'avait été la croisade des pastoureaux et le massacre des lépreux, ou vague d'euphorie délirante comme celle qui accompagna l'avènement de Philippe de Valois. Le nouveau roi était de belle taille et possédait cette majesté musculaire nécessaire aux fondateurs de dynasties. Son premier enfant était un fils âgé déjà de 9 ans et qui paraissait robuste. Il avait également une fille, et l'on savait, les cours ne font point mystère de ces choses, qu'il honorait presque chaque nuit sa boiteuse épouse avec un entrain que les années ne ralentissaient pas. Doué d'une voix forte et sonore, il n'était pas un bafouilleur, comme ses cousins Louis Hutin et Charles IV, ni un silencieux comme Philippe le Bel ou Philippe V. Qui pouvait s'opposer à lui? Qui pouvait-on lui opposer? Qui songeait à écouter dans cette liesse où roulait la France la voix de quelques docteurs en droit payés par l'Angleterre pour formuler sans conviction des représentations? Philippe VI arrivait au trône dans le consentement unanime. Et pourtant, il n'était qu'un roi de Racro, un neveu, un cousin de roi comme il y en avait tant, un homme fortuné parmi son parentage. Pas un roi désigné par Dieu à la naissance, pas un roi reçu, un roi trouvé le jour qu'on en manquait. Ce mot, inventé par Larue, ne diminuait en rien la confiance et la joie. Ce n'était qu'une de ces expressions d'ironie dont les foules aiment à nuancer leur passion et qui leur donnent l'illusion de la familiarité avec le pouvoir. Jean le Fol, lorsqu'il répéta cette parole à Philippe, eut droit à une bourrade dont il exagéra la rudesse en se frottant les côtes et en poussant des cris aigus. Il venait tout de même de prononcer le maître mot d'un destin. Car Philippe de Valois, comme tout parvenu, voulut prouver qu'il était bien digne, par valeur naturelle, de la situation qui lui était échue, et répondre en tout à l'image qu'on peut se faire d'un roi. Parce que le roi exerce souverainement la justice, il envoya pendre dans les 3 semaines le trésorier du dernier règne, Pierre Rémy, dont on assurait qu'il avait beaucoup trafiqué du trésor. Un ministre des Finances au gibet est chose toujours qui réjouit d'un peuple. Les Français se félicitèrent. On avait un roi juste. Le prince est, par devoir et fonction, défenseur de la foi. Philippe prit un édit qui renforçait les peines contre les blasphémateurs et accroissait le pouvoir de l'Inquisition. Ainsi, le haut et bas clergé, la petite noblesse et les bigotes de paroisse se trouvèrent rassurés. On avait un roi pieux. Un souverain se doit de récompenser les services rendus. Or, combien de services avaient été nécessaires à Philippe pour assurer son élection ? Mais un roi doit veiller également à ne point se faire d'ennemis parmi ceux qui se sont montrés sous ses prédécesseurs bons serviteurs des intérêts publics. Aussi, tandis qu'étaient maintenus dans leur charge presque tous les anciens dignitaires et officiers royaux, de nouvelles fonctions furent créées, ou bien l'on doubla celles qui existaient, afin de donner place au soutien du nouveau règne et satisfaire à toutes les recommandations présentées par les grands électeurs. Et comme la maison de Valois avait déjà train royal, ce train se superposa à celui de l'ancienne dynastie, et ce fut une grande ruée aux emplois et aux bénéfices. On avait un roi généreux. Un roi se doit encore d'apporter la prospérité à ses sujets. Philippe VI s'empressa de diminuer, et même, dans certains cas, de supprimer les taxes que Philippe IV et Philippe V avaient mises sur le négoce, sur les marchés publics et sur les transactions des étrangers, taxes qui, de l'avis de ceux qui les acquittaient, entravaient les foires et le commerce. Ah, le bon roi que voilà, qui faisait cesser les tracasseries des receveurs de finances. Les Lombards, prêteurs habituels de son père et auxquels lui-même devait encore si gros, le bénissaient. Nul ne songeait que la fiscalité des anciens règnes produisait ses effets à long terme, et que si la France était riche, si l'on y vivait mieux que nulle part au monde, si l'on y était vêtu de bons draps et souvent de fourrures, si l'on y voyait des bains et étuves jusque dans les hameaux, on le devait au précédent Philippe, qui avait su assurer l'ordre dans le royaume, l'unité des monnaies, la sécurité du travail. Un roi doit aussi être un sage, l'homme le plus sage parmi son peuple. Philippe commença de prendre un ton sentencieux pour énoncer, de cette belle voix qui était la sienne, de graves principes où l'on reconnaissait un peu la manière de son précepteur, l'archevêque Guillaume de Try. « Nous, qui toujours voulons raison garder, » disait-il chaque fois qu'il ne savait quel parti prendre. Et quand il avait fait fausse route, ce qui lui arrivait fréquemment, et se trouvait contraint d'interdire ce qu'il avait ordonné l'avant-veille, il déclarait avec autant d'assurance « Raisonnable chose est de modifier son propos. En toute chose, mieux vaut prévenir qu'être prévenu, énonçait encore pompeusement ce roi qui, en 22 ans de règne, ne cesserait d'aller de surprise en surprise malheureuse. Jamais monarque ne débita de plus haut autant de platitudes. On croyait qu'il réfléchissait. En vérité, il ne pensait qu'à la sentence qu'il allait pouvoir formuler pour se donner l'air de réfléchir. Mais sa tête était creuse comme une noix de la mauvaise saison. Un roi, un vrai roi, n'oublions pas, se doit d'être brave, épreux et fastueux. En vérité, Philippe n'avait d'aptitude que pour les armes. Pas pour la guerre, mais bien pour les armes, les joutes, les tournois. Instructeur de jeunes chevaliers, il eût fait merveille à la cour d'un moindre baron. Souverain, son hôtel ressembla à quelques châteaux des romans de la Table Ronde, qui était beaucoup lu à l'époque et dont il s'était fort farci l'imagination. Ce ne furent que tournois, fêtes, festins, chasses, divertissements, puis tournois encore avec débauches de plumes sur les haumes et chevaux plus parés que des femmes. Philippe s'occupait très gravement du royaume, une heure par jour, après une joute d'où il revenait ruisselant ou un banquet dont il sortait la panse lourde et l'esprit nuageux. Son chancelier, son trésorier, ses officiers innombrables prenaient les décisions pour lui, ou bien allaient chercher leurs ordres auprès de Robert d'Artois. Celui-ci, en vérité, commandait plus que le souverain. Nulle difficulté ne se présentait que Philippe n'en appelât au conseil de Robert, et l'on obéissait de confiance au comte d'Artois, sachant que tout décret de sa part serait approuvé par le roi. De la sorte, on alla au sacre, où l'archevêque Guillaume de Trie devait poser la couronne sur le front de son ancien élève. Les fêtes, à la fin mai, durèrent 5 jours. Il semblait que tout le royaume fût arrivé à Reims. Et non seulement le royaume, mais encore une partie de l'Europe, avec le superbe et impécunieux roi Jean de Bohême, le comte Guillaume de Hainaut, le marquis de Namur et le duc de Lorraine. 5 jours de réjouissances et de ripailles, une profusion, une dépense comme les bourgeois rémois n'en avaient jamais vu. Eux qui subvenaient aux frais des fêtes et qui avaient rechigné devant le coup des derniers sacres, cette fois fournissaient le double, le triple d'un cœur joyeux. Il y avait 100 ans qu'au royaume de France, on avait tant bu. On servait à cheval dans les cours et sur les places. La veille du couronnement, le roi arma chevalier Louis de Crécy, comte de Flandre et de Nevers, avec la plus grande pompe possible. Il avait été décidé, en effet, que ce serait le comte de Flandre qui tiendrait le glaive de Charlemagne pendant le sacre et le porterait au roi. Et l'on s'étonnait que le connétable eût consenti à se dessaisir de cette fonction traditionnelle. Encore fallait-il que le comte de Flandre fût chevalier. Philippe VI pouvait-il montrer avec plus d'éclat l'amitié dans laquelle il tenait son cousin flamand ? Or, le lendemain, pendant la cérémonie dans la cathédrale, lorsque Louis de Bourbon, grand chambrier de France, ayant chaussé le roi des bottes fleurdelysées, appela le comte de Flandre pour présenter l'épée, ce dernier ne bougea pas. Louis de Bourbon répéta « Monseigneur le comte de Flandre !» Louis de Crécy resta immobile, debout, les bras croisés. « Monseigneur le comte de Flandre !» proclama le duc de Bourbon. « Si vous êtes séant ou quelques personnes pour vous, venez accomplir votre devoir, et si vous saumons de paraître à peine de forfaiture. » Un grand silence s'était fait sous les voûtes, et un étonnement apeuré se peignait sur les visages des prélats, des barons, des dignitaires. Mais le roi restait impassible, et Robert d'Artois reniflait, nez en l'air, comme s'il s'intéressait au jeu du soleil à travers les vitraux. Enfin, le comte de Flandre consentit à avancer, s'arrêta devant le roi, s'inclina et dit « Sire, si l'on avait appelé le comte de Nevers ou le sire de Crécy, je me fusse approché plus tôt. » « Mais quoi, monseigneur ?» répondit Philippe VI. « N'êtes-vous point comte de Flandre ?»« Sire, j'en porte le nom, mais n'en ai point le profit. » Philippe VI prit alors son meilleur air royal, poitrine gonflée, regard vague, et son grand nez pointé vers l'interlocuteur pour prononcer bien calmement « Mon cousin, que me dites-vous donc ?»« Sire, » reprit le comte, « les gens de Bruges, d'Ypres, de Poperingue et de Cassel m'ont bouté dehors mon fief, et ne me tiennent plus pour leur compte ni seigneur. » C'est à peine si je puis tout furtivement me rendre à Gand tant le pays est en rébellion. » Alors Philippe de Valois abattit sa large paume sur le bras du trône, geste qu'il avait vu bien souvent faire à Philippe le Bel, et qu'il reproduisait inconsciemment tant son oncle avait été l'incarnation véritable de la majesté. « Louis, mon beau cousin, » déclara-t-il lentement et fortement, « nous vous tenons pour comte de Flandre. » Et par les dignes onctions et sacrements que nous recevons aujourd'hui, vous promettons que jamais ne prendrons paix ni repos avant que de vous avoir remis en possession de votre comté. » Alors le comte de Flandre s'agenouilla et dit « Sire, grand merci. » Et la cérémonie continua. Robert d'Artois clignait de l'œil à ses voisins, et l'on comprit alors que cet esclandre était coup monté. Philippe VI tenait les promesses faites par Robert pour assurer son élection. Philippe d'Evreux apparaissait ce même jour sous son manteau de roi de Navarre.